Un grand tour de l'Europe vu par ses écrivains. 27 d'entre eux, un par État membre de l'Union, unissent leurs talents pour raconter notre culture commune, ce ciment indispensable pour unir un continent qui redécouvre la menace de la guerre. Un ouvrage collectif dont nous recevons le pilote, l'écrivain Olivier Guez, et l'une des autrices, la Slovène Brina Svit. C'est dans 28 minutes et c'est tout de suite. Bonsoir Brina Svit, bonsoir Olivier Guez, bienvenue à tous les deux. Je vous présente tout de suite Nadia Dame et Vincent Trémollet-Villers. Bienvenue bonsoir. À vous aussi, bien sûr. Alors Brina Svit, je le disais à l'instant, vous êtes écrivaine slovène et vous avez donc participé à cet ouvrage collectif dirigé par Olivier Guez, votre voisin, écrivain lui aussi, bien sûr. Le Grand Tour, autoportrait de l'Europe par ses écrivains, paru chez Grasset, 27 auteurs, un par État membre de l'Union européenne qui raconte de son point de vue, justement, à travers un lieu ou un rapport, son rapport à la culture commune européenne. On va en parler dans un instant. Mais vous-même, vous êtes donc originaire d'un pays, la Slovénie, qui a rejoint l'Union européenne relativement récemment, on va dire en 2004. En 2004 déjà, certes, mais par rapport à d'autres pays qui avaient adhéré auparavant, c'est relativement récent. Est-ce que ça traduisait, est-ce que ça traduit toujours un amour d'Europe? Est-ce que la Slovénie, 17 ans après avoir rejoint l'Union européenne, a toujours l'amour d'Europe qu'elle avait au moment de son adhésion, selon vous?
Peut-être ces dernières années un peu moins, sous l'impulsion du dernier gouvernement, qui est un gouvernement quand même, disons-le, de droite, voire d'extrême droite, et qui a en plus admirateur de Orban, donc forcément,
Hongrie,
oui,
ouais,
donc forcément un peu plus méfiant par rapport à l'Europe. Au début et pendant longtemps, en revanche, la Slovénie était tout d'abord une très bonne élève de l'Europe, et les Slovènes étaient passionnément européens, moi aussi.
Et c'est vrai qu'on a vu parfois ce doute vis-à-vis de l'Europe justement apparaître dans certains des pays qui ont rejoint l'Union en 2004. Mais tout de suite, on va y revenir à cet amour de l'Europe que vous traduisez dans cet ouvrage collectif, que vous illustrez à travers donc ce ciment qu'est la culture, ce grand tour. Et on va commencer par faire le grand tour de vous deux, en quelque sorte. C'est votre règle de trois à tous les deux, Brina Svit et Olivier Guez. Et cette règle de trois, elle est signée Gaël Legras.
Extra-communautaire, étranger, le rap, c'est la règle de trois de Brina Svit et Olivier Guez. Brina Svit se définit comme extra-communautaire. Née en ex-Yougoslavie à Ljubljana, aujourd'hui capitale slovène, elle s'installe à Paris en 1980 à l'âge de 24 ans. Je ne suis plus une Yougoslave, je ne suis pas une vraie Slovène, je ne suis pas une vraie Française non plus, je suis une extra-communautaire, écrit-elle. Elle choisit la langue slovène pour ses quatre premiers romans. Le troisième, intitulé Conbrio, sort en 1999.
Je voulais situer en même temps ce roman dans l'histoire du roman européen. Mmh. Et disons, même dans, si je suis encore plus précise, dans un certain roman, donc un peu roman balzacien.
Moreno, le premier écrit en français, paraît en 2003. Depuis, passionnée de tango, Brina Svit a constitué ce qu'elle appelle son triangle géographique, Zagradjek, son village slovène à la frontière italienne, Paris et Buenos Aires. Je me suis toujours senti étranger, en décalage précisément, dit Olivier Guez. Née en 1974 à Strasbourg, la construction de l'Europe marque son enfance et influence tous les choix qu'il fera ensuite. Après des études en Alsace, à Londres, à Bruges, des reportages en Europe centrale, en Amérique latine ou Moyen-Orient, il vit plusieurs années à Berlin où il écrit L'impossible retour sur la mémoire des Juifs d'Allemagne. En 2017, il remporte le prix Renaudot avec La disparition de Joseph Mengele, roman sur la cavale en Amérique du Sud du médecin tortionnaire d'Auschwitz.
Moi, ce qui m'intéresse le plus vraiment, c'est comment le continent européen s'est remis de ça?
Grand voyageur pour voir et apprendre le plus de choses possible, emmagasiner des expériences, des goûts, des sensations, passionné par le football, en 2014, il publie Éloge de l'esquive, qui s'intéresse aux dribbleurs brésiliens et notamment à l'attaquant métis Arthur Friedenreich.
Il esquive, il feinte, pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait il a peur de prendre des coups, il a peur d'avoir des contacts avec les joueurs blancs. Et donc c'est comme ça que le dribble naît au Brésil.
Dans le Grand Tour, un autoportrait de l'Europe par 27 écrivains, Olivier Guez demande à ses autrices et auteurs, un par État membre, de relater un lieu qui évoquerait un lien de leur pays avec la culture et l'histoire européenne. Brina Svit écrit sur Nova Gorica, ville slovène, frontière avec l'Italie et à l'esprit si particulier, écrit-elle. Grâce à cet usage de deux langues, de deux cultures, de deux sources d'information, de deux points de vue, ce qui est forcément mieux qu'un seul.
Deux, c'est mieux qu'un seul, 27 aussi, sans aucun doute. Alors justement, Olivier Guez, vous qui pilotez, qui dirigez cet ouvrage collectif, comment est-ce que vous définiriez-vous en quelques mots la culture européenne? C'est quoi ce qui fait, justement, ce qui rend, ce qui crée cette culture commune?
quelque chose que, en quelques mots, quelque chose qui n'a jamais vraiment été défini. Je pense que c'est une communauté de valeurs, c'est une civilisation, c'est un espace, et ce sont des expériences. Ça, c'est la définition d'une culture en règle générale. Après, si on doit entrer en détail, je pense que l'Europe a partagé des expériences historiques qu'on pourrait peut-être définir comme une culture de la transgression. C'est-à-dire qu'en fait, on part du paganisme, et puis il y a la transgression du paganisme avec le christianisme. Et puis après, il y a la transgression du christianisme avec la Renaissance et surtout les Lumières. Et puis après, il y a encore d'autres transgressions. C'est une transgression scientifique, c'est une transgression des normes, c'est l'invention de l'ironie. Donc on a cette
forme
culture
de quête de liberté permanente, en quelque sorte, d'émancipation.
Mais c'est aussi une transgression qui peut être négative. C'est la transgression des autres cultures, par exemple. C'est aussi la transgression nature avec l'exploitation économique qui n'a jamais été aussi forte qu'en Europe, enfin qui a commencé véritablement en Europe à partir du 15e, du 16e siècle. Donc on a cette culture que partagent quasiment tous les pays du continent en fait.
Et cet ouvrage collectif, donc ce grand tour, paraît dans un contexte qui est d'une part la présidence française du Conseil de l'Union européenne, mais surtout dans un contexte beaucoup plus tragique et beaucoup plus récent, qui est la guerre, justement la guerre en Ukraine, la guerre déclenchée par la Russie. Est-ce que Brinesvit, ça renforce un besoin, un amour? Est-ce qu'on se sent d'autant plus européen quand on voit cette menace-là et la guerre qui revient aujourd'hui à nos portes?
Ah oui, certainement, certainement. Et je pense qu'on se sent aujourd'hui plus européen qu'on ne s'est senti pendant les guerres, enfin je dis balkaniques, pendant la guerre d'abord Slovénie, après en Croatie, et le long siège de Sarajevo.
Toutes ces guerres qui ont détruit cet ancien pays qui était la Yougoslavie.
Oui, qu'on a quand même... je pense observer avec un peu plus de distance, vous ne trouvez pas ?
Non, je pense que pour la première fois, probablement pour la première fois depuis le début de la construction européenne dans les années 50, tous les Européens ont la sensation d'appartenir à une communauté de destin. Et par rapport justement aux guerres yougoslaves, on a véritablement un ennemi très clairement identifié. Je veux dire, les Ukrainiens ont été envahis parce qu'ils veulent appartenir à l'Europe, parce qu'ils veulent basculer du côté occidental et s'éloigner justement de la sphère eurasienne. Et ce sentiment-là, qu'on soit à Stockholm, à Paris, à Munich ou à Rome, ou à Bucarest... Sauf à Belgrade, ça c'est possible. Mais en tout cas, on a cette sensation-là, pour la première fois vraiment.
C'est vrai qu'on a vu le président ukrainien demander très officiellement l'adhésion de son pays à l'Union européenne. Cette réaction unitaire de l'Europe, on l'a vu sur le plan politique, sur le plan économique, et puis aussi sur le plan culturel face à l'offensive de Vladimir Poutine en Ukraine. Justement, il y a là aussi une réaction collective du monde des artistes, Nadia.
Ouais, en sachant qu'il n'y a pas encore de boycott officiel qui a été décidé, mais on voit bien effectivement qu'il y a eu plein de déprogrammations d'artistes russes depuis quelques jours. Par exemple, à Marseille, c'était la première déprogrammation, le théâtre Tourski, qui annulait son 26e festival russe. La Russie a également été bannie du très très populaire concours de l'Eurovision. Le pavillon russe à la Biennale de Venise qui va rester fermé. Toutes les représentations du Bolshoï à Londres qui sont pour l'instant suspendues. Et ça, on l'a appris aujourd'hui. Le chef d'orchestre russe de la Scala, qui s'appelle Valery Gergiev, qui est un proche de Poutine, qui a été écarté de cette institution. Ça fait débat, évidemment. Pour certains, la culture, elle ne doit pas rester en marge de cet événement géopolitique majeur. Pour d'autres, c'est une forme de censure. Comment est-ce qu'on peut trancher ce débat-là? Est-ce qu'effectivement, la culture, c'est une ligne de front anti-Poutine? Ça doit l'être?
Je pense que on a tous étaient tellement surpris par la violence de cette offensive. Quand on voyait les titres des journaux ce week-end, guerre à Kharkov, à Kiev, on avait l'impression de se replonger en 1942. C'est-à-dire, c'est totalement hallucinant. Donc il y a une réaction qui est ultra-violente. Et donc c'est vraiment la mise au ban de la Russie. Avec l'idée aussi de pousser les Russes à s'éloigner de Poutine, c'est-à-dire qu'ils voient les conséquences. Après, c'est à double tranchant. Les sanctions, par exemple, si on regarde le cas de l'Irak, ça a plutôt rassemblé les Irakiens derrière Saddam, parce qu'on peut aussi utiliser ces sanctions comme quoi l'Occident nous en veut, et donc il faut faire front tous ensemble. Par rapport aux artistes russes, c'est vrai que la plupart sont plutôt opposés à Poutine, donc ça va être très complexe.
Vincent.
Brinesvit, si on revient au livre... On s'aperçoit qu'il remplit un manque important, qui est celui de la littérature dans l'histoire de l'Europe. Là, il y a donc 27 écrivains, et il y a un patrimoine littéraire immense qu'Olivier Guez cite dans son introduction, et qui n'est pas utilisé par l'Union européenne. Comment vous expliquez que ces grandes figures contemporaines ou anciennes que sont les écrivains européens ne soient pas utilisées pour créer un sentiment commun de la Lituanie jusqu'au Portugal ?
Ah, c'est peut-être un peu par l'ignorance, par paresse, parce que chacun est enfermé dans sa culture, parce que Kundera appellerait peut-être le provincialisme des grands peuples qui connaissent tout de leur culture, mais très peu des autres. Et ça, c'est déjà
si
certainement,
ça,
c'est déjà certainement une raison.
Raison. Parce que aussi, le projet de départ n'a rien à voir avec la culture. Et quelque part, c'est compréhensible dans les années 50 qu'on ait d'abord voulu coaliser les forces économiques, les moyens de production, et que c'était très compliqué à l'époque de parler culture, de parler civilisation. Après, je pense qu'il y a eu une immense erreur dans les années 80-90, où il y a eu cette accélération de la construction européenne de ne pas inclure la culture. Et pour moi, l'exemple le plus frappant, ce sont nos billets de banque.
Mais les billets qui n'ont pas...
C'est quand même incroyable. L'histoire européenne regorge de génies en tout genre. On pourrait même consulter les citoyens européens par Internet, ce serait assez amusant, plutôt que des ponts et des arcs factices dessinés par un ordinateur.
C'était pour ne pas froisser...
C'est ça le problème. Ouais. En fait, on a tellement peur de froisser, de se froisser entre nous, de froisser les autres, qu'en fait, on arrive à un objet totalement désincarné, quasiment frigide. Mais je pense que ça va changer.
Il y a une occasion prochaine de vanter la culture européenne, c'est la capitale européenne de la culture en 2025. Oui. Deux villes le seront en même temps. L'une, votre ville d'origine slovène, Nova Gorica.
Non, ce n'est pas du tout ma ville d'origine. Moi, je suis une Ljubljanaise.
Celle à laquelle vous consacrez votre nouvelle, pardon. Et puis la ville voisine italienne, elle est juste de l'autre côté de la frontière, Gorica. En quoi ça participe justement de cette culture européenne que de marier ces deux villes de deux pays différents, la Slovénie et l'Italie, pour vanter justement la culture?
Je trouve ça un projet formidable parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux villes étaient pendant très longtemps presque des villes ennemies. Alors que maintenant, 70 ans après, ces deux villes que tout séparait dans leur histoire se mettent ensemble pour être ensemble la capitale européenne en 2025, je trouve.
Capitale européenne de la culture.
De la culture,
donc la culture, donc
c'est
justement
vraiment
ce rôle de ciment pour les réunir et pour réunir ces deux Europes qui ont été...
Donc ce sera vraiment deux visages différents, deux langues, deux cultures qui vont se mettre ensemble.
Qui se marient donc pour un projet commun, un projet commun que vous chantez, que vous décrivez, que vous vantez dans ce livre collectif Le Grand Tour aux éditions Grasset, dirigé par Yves Egaz, avec notamment donc Brin Asvit et 26 autres écrivains des 26 autres États membres de l'Union. Merci à tous les deux d'être